Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette troisième émission du département d'histoire et d'archéologie de l'université de Tours, un tour d'histoire consacré ce soir au genre cinématographique du péplum. Et sans plus attendre, je vous propose un petit extrait d'un grand péplum que j'aime beaucoup, Le Colosse de Rhodes de Sergio Leone de 1962.
Pardonne ma curiosité, mais après l'empoisonneur empoisonné, on va amener les lions.
Je ne connais pas le programme, nous verrons bien.
J'espère que non. Ce serait bien trop dangereux pour les lions.
C'est le premier mort que tu vois?
Le deuxième, pour un jour de paix, c'est déjà bien, non?
As-tu mieux à proposer?
Nous pourrions sortir tous les deux.
Voilà, donc en quelques secondes, pour vous remettre un peu dans une atmosphère comme cela, auditive, du péplum, avec ses codes immédiatement reconnaissables, un héros détaché et un peu taquin, une héroïne aussi mutine, et puis ici aussi, avec Sergio Leone, un détournement des codes du péplum, et une forme de moquerie à l'égard des lions qui vont peut-être apparaître au programme ou pas, et des empoisonnements qui sont empoisonnés. Alors, j'espère qu'avec ces différents éléments, un peu de phénoménologie du péplum, vous avez commencé à vous remettre dans le bain de ces films où le décor est un peu kitsch, les personnages ont un jeu un peu emphatique, et surtout les thématiques sont largement inspirées d'une antiquité revisitée, d'une antiquité un peu imaginaire. Pour parler du péplum en tant à la fois qu'objet d'histoire, puisque le péplum en tant que genre cinématographique a une histoire, et aussi parler du péplum en tant que représentant d'une certaine façon une histoire ou une littérature antique, eh bien j'ai convié ce soir à discuter avec moi Dominique d'Almeida, professeur de lettres classiques en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Descartes, et que je remercie d'être présente ici, et Laurent Givlet, professeur de littérature et d'analyse filmique au lycée Balzac, et lui aussi, je le remercie pour sa présence. Et bien sûr, j'animerai cette discussion autour du péplum pour donc la deuxième fois. Je serai aux commandes de cette émission, donc Sylvain Janiard, maître de conférence au département d'histoire et d'archéologie de l'université de Tours. Alors avec mes invités, j'aimerais aborder un programme assez riche, d'abord sur, bien entendu, l'origine du terme, l'origine du genre lui-même. Dominique d'Almeida, peut-être est-ce que vous souhaitez intervenir pour nous définir un peu le moment où apparaît ce terme et comment on peut le reconnaître finalement dans toute une série de films très différents un même genre filmique.
Oui, je veux bien. C'est une question de fond. On fait des films qui peuvent aujourd'hui être appelés péplum depuis pratiquement les origines du cinéma. Mais le terme lui-même semble être apparu dans les années 60, enfin vers 1960, autour de Bertrand Tavernier et du ciné-club qu'il animait, du Nickelodeon. Et ce terme a servi, c'est le débat, parfois désigné exclusivement les films à l'antique tournés en Italie, les péplums italiens des années, disons, 50-60 ou 45-65. Et la question est de savoir si on l'applique à tous les films à l'antique, c'est-à-dire aussi bien ceux tournés avant cette période que ceux tournés par Hollywood, que ceux tournés bien après également par des gens qui ont essayé peut-être de retravailler cette notion du film à l'antique. Par ailleurs, dans le péplum, donc l'origine du mot serait le terme grec, le péplos, qui désigne un vêtement grec féminin, latinisé en péplum, et qui aurait servi ensuite à désigner tous les films dont l'action, dont l'intrigue se situe dans une antiquité. On sera peut-être amené à revenir sur ce point, parce que la variété en est extrêmement grande.
Merci Dominique. Laurent, justement, sur cette variété qui compose le péplum, il faut savoir quand même qu'on appelle, enfin, on subsume sous ce nom un peu général, à la fois de véritables chefs-d'œuvre, des films d'auteur, hein, de Pasolini, Fellini, et aussi plutôt des films de genre grand public. Et est-ce que vous pensez que on peut garder néanmoins cette interprétation générale, on peut placer l'ensemble de ces films sous un même chapeau?
On peut le garder dans la mesure où l'ensemble de ces films nécessite de la part du cinéma un même travail de reconstitution. Donc il y a des moyens de la reconstitution industrielle, bon, Hollywood va le développer, mais c'est un genre qui a une histoire ancienne en fait, et qui naît en Italie. C'est-à-dire qu'avant de devenir un genre commercial, c'est un genre sérieux. Quand Pastrone fait en 1910 Cabiria, c'est Gabriele D'Annunzio qui écrit le texte, d'après Tite-Live. Il y a quelque chose de sérieux dans la reconstitution, de très spectaculaire, puisqu'on fait franchir les Alpes à des éléphants de cirque, hein, pour la nécessité du tournage. Donc il y a à la fois du spectaculaire et du sérieux, dans une optique de cette Italie naissante, en fait, de se donner un cinéma national. Et alors après, évidemment, le spectaculaire va prendre le pas. Hollywood va bien voir l'intérêt, c'est intolérance de Griffith dans ses scènes antiques et bibliques aussi. Et peu à peu, évidemment, l'Europe n'a pas les moyens financiers de soutenir un effort industriel pour produire ces films-là. Hollywood va le faire dès les années 20. Et ensuite va revenir en Italie après-guerre, parce que Cinecittà, c'est moins cher. Les ouvriers sont moins chers. Très compétents, très qualifiés. Et puis surtout, les modèles, ils sont là. C'est-à-dire que le décor est kitsch, mais pour construire du kitsch, il faut quand même avoir un modèle. Donc on va chercher des temples, on se tourne vers l'archéologie, pour les meubles, pour les bijoux, pour les costumes. Alors jusqu'à une forme de standardisation ridicule qui conduit au mot, en fait. Hein, à la même époque, Roland Barthes écrit dans la mythologie un texte sur la coupe de cheveux ridicule, enfin standardisée du péplum. Donc on peut s'en moquer, mais c'est sur un fond sérieux quand même.
Oui, oui, là, il parlait des films à franges, oui, et à du franges, fait que oui. Précisément c'était une espèce d'entre-deux où à la fois un faux rapport au passé permettait à un spectateur peut-être moins cultivé d'avoir quand même l'impression qu'il était immergé dans une civilisation antique. Sachant qu'évidemment, on se trouvait devant un grossissement. Alors, je pense que là, vous avez vraiment abordé des points très intéressants. D'abord, en rappelant l'ancienneté hein, du genre, le péplum comme genre cinématographique est presque aussi ancien que le cinéma en tant que moyen. Hein, et les premiers péplums donc, apparaissent dès la fin du 19e siècle. Et vous avez aussi rappelé donc, que, effectivement, il y avait cette thématique commune à l'ensemble de ces films qui est la volonté de replonger le spectateur dans une antiquité, mais qui emprunte aussi une antiquité qui emprunte beaucoup à d'autres genres, c'est-à-dire à la fois la peinture pompier de la fin du 19e siècle, ces grands tableaux sur la décadence des Romains, sur Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort, à tel point que le peintre Merson, par exemple, va accuser Louis Feuillade dans ses péplums de plagier, d'avoir repris tel quel des scènes. Et c'est intéressant de voir que le péplum finalement apparaît à un moment où il y a un renouveau aussi de l'intérêt pour l'antique dans les sociétés de l'Europe occidentale, et renouveau qui se manifeste à la fois, donc, on l'a vu dans la peinture, mais aussi le roman historique, et de très nombreux péplums sont en réalité des adaptations de romans qui ont fait fleuruite entre le milieu du 19e et le début du 20e. Donc Covadis pour Sienkiewicz, bien sûr, mais aussi Les Derniers Jours de Pompéi, de Bulwer Lytton, bref. Donc le genre n'apparaît pas comme cela, finalement, de rien. Hein, il est au fond l'utilisation d'un nouveau moyen technique, d'un nouveau médium pour mettre en scène, interpréter, proposer des relectures de tout un intérêt profond des civilisations d'Europe occidentale pour cette antiquité. Alors néanmoins, en plus de cette origine commune du péplum, cette thématique commune, il y a quand même aussi toute une série de codes qui permettent immédiatement de reconnaître les péplums. Est-ce que, par exemple, Laurent, vous pouvez nous en donner quelques-uns ?
Alors, d'abord, fondamentalement, il faut émerveiller le spectateur. Donc, c'est la reconstitution, c'est la beauté du décor. C'est d'abord un genre qui repose sur les décorateurs. On reconstitue des villes antiques, Pompéi, et on s'intéresse tout de même à une certaine classe sociale. C'est-à-dire qu'on se tourne vers ce qu'il y a de beau. On reconstruit des temples, on reconstruit des maisons de gens riches pour développer à l'intérieur la beauté des vêtements, du mobilier, des bijoux, etc. Pour développer des intrigues qui sont au fond des intrigues de cour, souvent. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui va avec, c'est que le décor est d'autant plus beau et spectaculaire qu'on va le détruire. C'est-à-dire, c'est une grande règle du film spectaculaire, il faut que le décor s'effondre. Alors c'est l'incendie, donc évidemment, les derniers jours de Pompéi, c'est tout à fait parfait. C'est des batailles. Alors c'est aussi aller chercher vers la mythologie quelque chose de grandiose, donc qui dépasse l'homme, et dépassant l'homme demande au cinéma des moyens hyperboliques. Sans parler des péplums bibliques, où là il s'agit carrément de réaliser la colère de Dieu pour l'Ancien Testament. Donc ça c'est une deuxième chose. La troisième chose, sur le plan de la narration, on articule en général des choses qu'on suppose un peu connues du spectateur. C'est-à-dire le spectateur, il n'est pas complètement en terrain inconnu. Ça peut être des vagues souvenirs scolaires, des souvenirs littéraires, une connaissance commune de la mythologie. Des clichés sur la décadence de Rome et ses empereurs, par exemple. Et donc on va réutiliser ça pour développer des intrigues qui, en général, se construisent toujours sur le même plan. Il y a une intrigue très générale politique, et puis une intrigue amoureuse, de jalousie, qui permet d'articuler l'histoire, la petite histoire, on va dire, et la grande histoire. Parce que c'est toujours, là, le ressort du cinéma, il faut aussi donner à des vedettes des rôles, et donc des rôles sentimentaux.
Dominique Dalméda, est-ce que pour vous, un bon péplum, c'est un péplum où, au fond, on a des personnages qui sont véritablement des personnages au sens antique du terme, c'est-à-dire des figures?
Alors, oui, parce que, comme l'a dit Laurent, il y a certes la nécessité du spectaculaire. Le péplum est un divertissement populaire et familial, pour la règle la plus courante. Et il faut donc qu'il y ait des personnages qui soient des héros, mais des héros qui ont presque toujours besoin de l'assistance, du secours, de l'aide, de compagnons, etc. C'est-à-dire que le héros est très très rarement dans les péplums un personnage solitaire, que ce soit un personnage mythologique ou un personnage historique ou un personnage de fiction, c'est un personnage qui s'appuie toujours sur d'autres. Et il va subir un certain nombre d'épreuves, rencontrer un certain nombre d'obstacles qu'il surmonte, bien évidemment, parfois de manière décalée par rapport à ce qui est le récit mythologique ou le récit historique, mais qu'il va réussir à franchir allègrement, soit pour réussir l'intrigue amoureuse, soit pour réussir le projet politique qui est celui du film. Et lorsqu'il échoue, même son échec, je pense à la fin de Spartacus, est une forme de réussite. Oui. Je voulais ajouter que avec l'intrigue amoureuse et avec la dimension héroïque, un des éléments nécessaires aussi dans le péplum, c'est la mise en valeur et l'exaltation du corps qui apparaît sous toutes ses formes, que ce soit un corps souffrant, un corps jouisseur, un corps au travail. C'est aussi une marque indispensable dans le péplum.
Oui, donc je crois que nous avons bien défini en fait la spécificité de ce genre cinématographique. C'est un genre qui est construit en fait sur des codes, et ce qui explique aussi le fait que, au fond, la quantité de thèmes abordés peut ne pas être particulièrement importante, mais ce qui compte finalement, c'est la variation. Par exemple, des Ben-Hur, on en compte 3 ou 4, et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir comment avec des moyens techniques particuliers liés à une époque, avec un regard particulier de cinéaste, on reprend finalement les codes antérieurs pour les retravailler ou les interpréter à une sauce un peu particulière. Alors, nous avons vu un genre qui se manifeste essentiellement par le côté spectaculaire, un genre qui se manifeste par les aspects qui relèveraient de l'épique, hein, du caractère épique de la littérature, le héros affronté à toute une série d'obstacles, à la réalisation de son but, et évidemment héros qui parvient à surmonter ces obstacles, mais nous avons quand même oublié que le héros bien souvent est aidé ou au contraire contrarié dans son destin par des héroïnes qui jouent un rôle extrêmement important là aussi comme personnage. Et je vous fais tout de suite écouter un petit extrait de L'Égyptien de Michael Curtis, en particulier donc pour vous montrer à quelle tentation ou quel danger le héros de Peplum peut être confronté.
Je ne t'ai amené ici que pour te montrer cette porte dans le mur. Cette nuit, quand tous mes hôtes seront partis, je reviendrai ici pour prendre mon bain.
Pourquoi me dis-tu cela?
Peut-être parce que j'adore les cadeaux. Et le plus grand des présents qu'un homme puisse offrir à une femme, c'est son innocence. Ce qu'il ne peut faire qu'une fois. Attends. Avant tout, avant que tu m'approches, je dois t'avertir.
Avertir?
La déesse de l'amour avait ses raisons pour prendre la forme d'un félin.
Quand je te regarde, qu'importe les félins ou les dieux.
Regarde Sinoé. Les pattes du chat sont douces, mais il a des griffes. Le chat prend plaisir à tourmenter ses victimes. Ce n'est que quand elles agonisent qu'il leur montre de la pitié, en les mettant à mort.
En quoi cela nous concerne-t-il, toi et moi ?
Voilà, donc la très belle, très sulfureuse Bella Darvi faisant des avances tout à fait explicites, hein, à l'innocent Edmund Purdom qui joue Sinoué dans cette adaptation là aussi d'un roman fameux, hein, Mika Waltari, qui avait été un grand succès de littérature. Il y a véritablement donc à côté du héros, alors en l'occurrence ici un héros peut-être un peu fallot, un peu trop d'ailleurs, ce qui a coûté beaucoup au film, des femmes fortes, des personnages donc on pourrait véritablement définir, en reprenant un langage cinématographique, de vamp. Parce que Dominique, que pensez-vous de cette représentation, hein, de la femme dans le péplum, représentation très stéréotypée?
Oui, elle est très stéréotypée, elle est aussi souvent manichéenne. Alors, elle est stéréotypée parce que la femme y est souvent fatale, cruelle. Enfin, il y a toute une panoplie de femmes fatales, cruelles ou fortes. Par exemple, je pense à Théodora, dans Théodora, impératrice de Byzance, qui n'est pas si perfide que l'est, par exemple, Poppée dans certains films, ou Agrippine, ou certaines femmes de cet ordre. Elle est souvent donnée à voir, il y a toute une dimension voyeuriste aussi dans le péplum, elle est souvent donnée à voir, justement, au bain, que ce bain soit un bain de lait d'ânesse en intérieur, si je puis dire, ou qu'il soit une scène de bain sur la plage et au bord de la mer. Elle influence le héros, ou elle tente de l'influencer. Il en va de même pour la reine de l'Atlantide, par exemple. Ce sont des personnages de ce type. Et souvent, face à elle, se trouve une jeune personne charmante, chaste, vertueuse, blonde, qui fait le contraste très fort avec elle, qui parfois se sacrifie pour le héros. Je pense, par exemple, à El Kébir, fils de Cléopâtre, où l'on voit cette opposition de deux personnages, assez subtilement d'ailleurs variés en l'occurrence, mais c'est effectivement un des points caractéristiques du péplum.
Oui, avec en plus des actrices qui souvent se spécialisent dans le rôle de la jeune naïve. Alors on pense à Jean Simmons dans La Tunique, mais elle reprend aussi plusieurs fois ce même rôle. Ou au contraire, alors Bella Darvi, Chelo Alonso, Gianna Maria Canale est dans des rôles au contraire, alors souvent de brune, forte, dominante et s'opposant au héros ou le trompant, puisque souvent aussi la caractéristique de la vamp, c'est uniquement que c'est une femme qui amène le héros à sa perte, mais qui l'a d'abord trompé. Voilà. Laurent, je crois que vous voulez ajouter.
Alors, c'est intéressant de ramener ça aussi à l'époque, c'est-à-dire que le péplum permet de montrer sur grand écran une forme de nudité que les autres genres ne permettent pas vraiment. Dans le réalisme, on ne se promène pas dans des tenues aussi légères, il ne fait pas si chaud. Donc la chaleur du monde méditerranéen permet de développer un érotisme, une sensualité, très mal vue dans d'autres genres. Le western a beaucoup de mal à faire rentrer des femmes dans ce code-là. Alors le péplum, ça c'est très pratique pour ça. Donc de rejouer en quelque sorte des questions morales, très habituelles au cinéma, mais de les accentuer en montrant des femmes lascives, des impératrices intrigantes, donc tout un éventail de personnages féminins difficiles à transposer dans un autre monde. Notamment dans la réalité, et puis des femmes chastes, etc. Et moi, je pense que le péplum biblique est très intéressant pour ça, parce que c'est la place de la femme. Et il y a des péplums, ceux qui tournent autour de la figure de David, par exemple, mettent en scène aussi des relations des femmes. Il faut toujours introduire, même dans des espaces très masculins, toujours introduire ces femmes et développer ces questions de sensualité, parce qu'elles tombent sous le coup des lois antiques ou biblique, et ça permet de développer un regard moral aussi, pour le spectateur contemporain, dans une Europe, dans un Hollywood encore marqué par le code ACE et toute une série de choses qu'on n'a pas le droit de montrer, certains baisers, etc.
Il faut savoir aussi que certaines scènes étaient tournées spécialement ou retournées un peu autrement selon le pays d'exportation du péplum. Et Sophia Loren raconte dans un livre récent sur le péplum italien, une scène amusante dans un péplum qui est de nuit avec Cléopâtre, dans lequel, dit-elle, on a fait retourner la scène du bain de Cléopâtre sans soutien-gorge pour la France, qui précisément ne vivait pas sous la même censure que les États-Unis.
Bien, alors je crois que nous avons déjà pas mal avancé dans la définition du genre, un genre très, très codé, très stéréotypé, un genre qui ouvre vers un antique qui autorise finalement ce que la morale ou les conventions de l'époque laissent plutôt de côté. Pour avancer un petit peu dans ce débat, est-ce que j'aimerais un peu avec nos invités revenir sur le fait que précisément le péplum c'est un genre qui est très lié à son histoire, à l'histoire de sa réalisation et à différents âges au cours desquels il a pu, on va dire, fleurir au cinéma. Si on, grosso modo, on peut dire qu'il y a trois âges du péplum, hein, une première partie qui accompagne la naissance du cinéma, une première explosion de production de films dans l'immédiate avant-guerre, avec quelques queues de comètes jusque dans les années 30, puis un âge d'or du péplum qui se va en gros des années 50 au milieu des années 60, et depuis une vingtaine d'années, un retour en force du genre, peut-être avec un rapport à l'antique un peu différent. Laurent Givlet, est-ce que cette tripartition vous semble pertinente ou est-ce que, au contraire, vous pensez qu'au fond, on n'a jamais tellement abandonné les thèmes antiques, mais...
Non, elle est assez juste. C'est-à-dire que à l'origine du cinéma, il y a deux choses. Il y a un cinéma qui cherche à se construire comme un art, ce qu'il n'est pas dans son origine. C'est un art forain. Il faut qu'il soit pris au sérieux. Donc, il se tourne vers la littérature, vers l'histoire, etc. Et il y a deux courants. Alors, il y a un courant très vite, notamment le catholicisme, va trouver de l'intérêt au cinéma, et le cinéma de patronage va mettre en scène toute une série de scènes bibliques. C'est tout aussi efficace pour convertir, pour faire le catéchisme. Donc déjà, cette voie-là, elle est ouverte très très tôt. Et puis l'Antiquité, évidemment, en Europe, très tôt, surtout en Italie, qui va vraiment utiliser son patrimoine pour montrer cela. Et puis, comme c'est un genre qui monte en qualité, en spectaculaire et donc en nécessité financière. Hollywood y voit très vite l'intérêt. Et effectivement, on a tout l'âge d'or du péplum. Je sais pas, Fred Niblo, c'est un des premiers Ben-Hur, 1920, qui va ensuite permettre dans ces grands décors d'Hollywood, de l'Ouest américain, d'avoir à leur disposition tous les décors qu'il faut. La mer, la montagne, les plaines, donc on tourne là-bas. Toute une série de productions, et puis on revient en Europe pour des raisons économiques, et le genre s'affaisse un peu en décadence aussi dans les derniers péplums. On sait plus très bien quoi faire, on fait des péplums hyper érotiques, un peu décadents complètement, les 70, je pense à des Caligula par exemple, où on est dans l'interdiction moins de 18 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et c'est la fin, parce que le goût a changé, et puis on a épuisé un peu les choses, et surtout ça devient un peu ridicule. C'est-à-dire que les scènes de foule, les armures, etc., ça tourne un peu à vide. Il y a la télévision tout de même, hein, qui fait des séries. Je pense à Masada ou des choses comme ça. Plus sérieuses, enfin, plutôt très intéressantes. Effectivement, ça revient aujourd'hui grâce aux outils numériques modernes du cinéma qui permettent des reconstitutions et donc de renouer avec un genre du spectaculaire avec les moyens modernes du cinéma.
Dominique, comment est-ce que vous interprétez, vous, cette espèce d'histoire à éclipse, finalement, du péplum?
Oui. Alors, je suis un peu plus réservée sur cette tripartition, c'est-à-dire, elle est incontestable, il y a des périodes dans lesquelles le péplum connaît une grande popularité, un grand succès, mais entre chacune de ces périodes, en fait, ça n'est pas le désert. C'est-à-dire que, par exemple, entre du début des années 10, on laisse de côté les péplums de quelques minutes, si on peut les appeler comme ça. Mais entre la fin des années 20 et les derniers 24, 25, 26, les derniers grands péplums, et le retour du péplum l'âge d'or, comme vous disiez, il y a tout de même des péplums de Cécile B. 2000, par exemple, qui sont tout à fait magnifiques dans les années 30, que ce soit Le Signe de la Croix, Cléopâtre, etc. Et de même, après 64-65, on fixe souvent ces années-là avec le début du Western Spaghetti qui prendrait le relais, en fait, du péplum avec Sergio Leone qui a travaillé sur les péplums et qui développerait le Western Spaghetti ensuite. Eh bien, comme l'a dit Laurent, après ces années-là, perdurent des formes de péplum érotico-pornographiques, très violents, ou une déferlante de péplum religieux, d'histoire biblique, etc. Et souvent, en effet, à la télévision. À la télévision, il y a énormément de sujets antiques et bibliques qui sont diffusés. Jusqu'aux années où, avec Gladiator, oui, reparle le péplum, peut-être.
Oui, je pense que nous aurons aussi le temps d'en parler, bien entendu, ce retour en force du péplum sur nos écrans, où le meilleur alterne aussi avec le pire. Ce qui est important aussi, il me semble, de rappeler dans ces moments d'histoire du péplum, c'est aussi que ces grandes périodes de production en masse du péplum correspondent aussi à des innovations techniques importantes. Alors en particulier, donc, Laurent citait Cabiria, hein, c'est quand même un film de plus de 3 heures. En 1914, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir cette longueur de pellicule. Dans les années 50, d'autres façons aussi de filmer sont mises en place. Et le péplum me semble toujours avoir été un peu en pointe dans l'usage des techniques nouvelles, permettant justement la spectacularisation, si vous permettez l'expression, de la représentation d'Antiquité.
Oui, oui, ça c'est... Et je crois que Cabiria est une date très importante. Le film a été restauré par Martin Scorsese avec sa fondation. Il y est très attaché à ce film-là et il a permis de le revoir. Il y a deux versions, puisqu'il y a une version sonorisée qui a été faite après. Et il invente, Pastrone, il met la caméra sur un chariot, il invente le travelling, en fait. Donc pour la première fois, la caméra bouge et elle bouge à des moments essentiels. C'est un moment où on voit Moloch et énorme. Enfin, on est dans la cour du temple et on va sacrifier la jeune Cabiria qui va être enlevée par un personnage très important dans l'histoire du cinéma italien qui est l'ancêtre de Massiste. Et donc on a là à la fois une recherche de dramatisation, parce que c'est ça aussi, et en Italie, surtout Cabiria, c'est le lien à l'opéra en Italie. Il y a quelque chose de très opératique et on veut se rapprocher de la dramatisation au plus près. Et il y a des scènes magnifiques où on incendie la flotte, Pythagore incendie la flotte avec des jeux de miroirs, donc quelque chose de très cinématographique, on joue avec la lumière. Et on est toujours alors, dans l'innovation technique, dans aussi le gigantisme, la direction des foules, parce que les péplums, il y a des armées en marche, on s'affronte, donc avant que ce soit numérisé, ce sont des vrais figurants équipés, donc on dirige vraiment des masses de personnages comme rarement d'autres genres le feront, et puis la couleur bien sûr. Le Technicolor, alors avec le film de KPDP, hein, avec, on va beaucoup travailler la couleur, voir l'Antiquité en couleur, c'est retrouver des couleurs de l'Antiquité, c'est-à-dire on s'inspire du code couleur, par exemple des fresques qu'on a conservées au musée de Naples, par exemple, hein, donc on peut regarder des tons pastels, il y a certaines couleurs plus employées que d'autres, notamment le rouge est très présent, couleur de l'Antiquité. La pourpre, quoi. Le jaune, tout ce qui relève du soleil, de la couleur des pierres, ça c'est très important, quoi. Et puis le rôle des paysages aussi, on filme des paysages, des tempêtes, on filme la mer, les îles, les naufrages, et donc on cherche toujours à mettre le spectateur au plus près de l'événement, et au plus près de son héros.
Dans cette seconde période du péplum, dont vous avez rappelé finalement, Dominique, à la fois les grands moments et puis un petit peu l'étiage hein, dans les années 60-65, est-ce qu'il ne serait pas bon de rappeler à la fois la concurrence entre le cinéma et d'autres formes de loisirs, alors plus domestiques et populaires, la télévision, et en même temps, peut-être aussi dire quelques mots sur le fait qu'il y a des concurrences aussi entre studios, que au fond, c'est un combat entre la Warner, Universal, la Paramount, et que ici, il s'agit d'attirer du spectateur en salle à partir d'éléments à la fois de gigantisme, de compétences techniques. Est-ce que vous me suivez sur cette interprétation du retour de la deuxième période du péplum, de cet âge d'or, donc de l'après-Seconde Guerre mondiale?
Oui, absolument. La télévision est un concurrent redoutable pour le cinéma. Il s'agit de faire en sorte que les gens aient envie de sortir de chez eux pour aller voir un spectacle de cinéma. Et pour cela, il faut que le cinéma offre ce que la télévision ne peut pas offrir. La télévision a... au point de départ, est en noir et blanc, est un petit écran. Et donc, on va, et c'est aussi parmi les inventions techniques, il y a non seulement le premier travelling, mais il y a aussi l'utilisation du scope, c'est-à-dire de l'écran très large, qui permet d'en mettre plein la vue, comme dit Truffaut, mais aussi qui implique nécessairement des foules de figurants, parce que cet écran très large, il faut effectivement le remplir. Et d'autre part, la couleur, le parlant, enfin la musique, parce qu'on n'a pas parlé de la musique, je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire, mais il y a là aussi bien dans la recherche d'ailleurs de l'authenticité, toutes sortes de travaux passionnants qui ont été faits sur la musique de ces films. Et... je prends par exemple la course de chars dans Ben Hur, c'est aussi l'occasion d'une invention technique, puisqu'il faut faire quelque chose de spectaculaire. On va mettre au point des caméras, je ne suis pas très technicienne, de 65 mm, enfin des caméras qui vont permettre de filmer cela, de même que des trucages, des effets spéciaux, de même que la construction des décors en dur, qui permettent de donner une profondeur bien différente de celle des toiles peintes ou des peintures sur verre qui servaient souvent de décor, ou le tournage dans des lieux naturels, en effet.
Oui, Laurent,
on peut dire qu'il y a une série qui a été importante, c'est Rome, la série qui a été faite pour la BBC, tournée à Cinecittà, que le décor qui a été construit réemploie de façon assez réaliste des éléments de la Rome, du forum romain, les pavés de la Via Appia moulés et reproduits, et que ce décor est encore aujourd'hui à Cinecittà en l'état, et il sert pour faire des séries B, c'est-à-dire qu'on tourne d'autres films dans ces décors-là. Donc il y a toujours un sens important lié à l'Antiquité qu'on n'a pas ni dans le western, ni dans le film de science-fiction, ni dans les films catastrophes, on ne garde pas autant de décors. on les réemploie pas autant. Donc la télévision, elle a un rôle important. Maintenant, le cinéma cherche toujours plus de spectaculaire. Et avec l'Antiquité, la télévision a quand même encore du mal à rivaliser, sauf à mettre en série, sauf à développer vraiment le récit sur une longue durée. Mais pour le spectaculaire, évidemment, c'est sans doute une des raisons du retour du péplum aujourd'hui. C'est que c'est très attractif.
Je crois d'ailleurs que dans l'année 55, qui était pourtant une année où la télévision se développe, je crois que M. Gilli dit que en Italie, il n'y a jamais eu autant de spectateurs ni de salles de cinéma. Qu'on a atteint des sommets sur ce plan.
Alors, bon, nous avons déjà évoqué plusieurs fois à la fois des lieux de tournage, hein, Cinecittà, Hollywood. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de voir des colorations un peu différentes dans le péplum des États-Unis et dans le péplum plutôt européen, puisque alors Cinecittà, bien sûr, l'Italie, mais il faut rappeler que beaucoup des films dits de péplum italien sont en fait des coproductions, hein, franco-italo-espagnol, yougoslave, avec parfois même, alors dans le cas de, comme Dominique le citait, de El Kébir, une coproduction avec l'Égypte. Donc, est-ce que il vous paraît pertinent, Laurent, d'opposer en quelque sorte un péplum qui serait plus religieux, plus épique, plus tourné sur les grands récits, les grands discours et qui viendrait des États-Unis Unis, et un péplum plus léger, plus au ras de terre, plus aussi dans les pattes du spectateur, et qui serait plutôt donc européen, pour le dire vite.
Oui, aux États-Unis, le péplum, le grand discours tenu par le péplum américain, c'est un discours impérial aussi. C'est un discours sur le cinéma. C'est-à-dire que nous, Hollywood, nous faisons une grande réflexion sur l'Empire, sur les relations de force. Donc, vraiment, l'épopée, la guerre, enfin, voilà, il y a un rapport particulier des États-Unis avec la guerre. En Europe, on a un autre rapport avec l'Antiquité. Je crois que les publics ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, les publics visés ne sont pas exactement les mêmes. En Europe, on présuppose davantage aux spectateurs une connaissance. Et donc, aussi un rapport plus léger, plus divertissant au péplum. Et ce qui a permis effectivement des coproductions, alors des coproductions souvent in fine à capitaux américains, mais aussi de développer en Europe une sorte de contre-culture du péplum fait par des artistes qui s'approprient les codes, qui tournent dans les mêmes lieux, Pasolini, alors, ou Fellini avec le Satyricon, il tourne à Cinecittà avec des artisans qui construisent les décors pour les autres péplums tournés. Donc il y a des interpénétrations comme ça. Et puis on fait aussi tourner des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs dont le péplum n'est pas le rôle principal, loin s'en faut, et puis qui finalement vont y trouver un débouché. Alors il y a des choses assez étonnantes. Serge Gainsbourg jouant de temps en temps dans des rôles assez improbables. Mais voilà, ça permet comme ça de dessiner des carrières et d'ouvrir des voies, et notamment des artistes. Alors il y a Pasolini, il y a des Italiens, mais je pense à Pharaon de Cavalerovitch, qui est un film absolument extraordinaire, très très loin des codes hollywoodiens. Et ça, seule l'Europe peut produire ça.
Dominique, alors Hollywood ou Cinecittà, alors en sachant aussi que Hollywood a investi très largement Cinecittà dans les années 50, bon, évidemment Ulysse de Camerini, avec Kirk Douglas arrivant avec ses scénaristes, ses maquilleuses ou Ben-Hur, comme le rappelait Laurent. Est-ce que il vous semble quand même qu'on peut tenir un peu l'idée qu'il y aurait deux histoires différentes du péplum ou...
Oui, il y a tout de même deux histoires différentes parce que disons qu'on oppose traditionnellement Hollywood et son sérieux, ses visées idéologiques, religieuses, son souci de la reconstitution et un côté plus désinvolte qui serait celui de l'Italie, toujours un peu plus brouillonne, etc. Mais en réalité, ce que vous disiez sur la coproduction ou les co-réalisations va plus loin. Il y a un véritable mixage de l'Amérique et de l'Italie parce que non seulement... des acteurs et des réalisateurs viennent tourner à Cinecittà, mais parce que à l'intérieur des films interviennent des réalisateurs, des scénaristes, des décorateurs, etc., italiens dans des films américains ou l'inverse, et qu'à l'intérieur d'un même film, par exemple Ulysse, il y a Kirk Douglas qui joue Ulysse, mais il y a Silvana Mangano ou une autre actrice italienne qui joue les rôles de femmes. Et de même que, c'est un peu pour un autre point de vue, mais on a des acteurs américains, des acteurs anglais dans certains péplums pour signifier autre chose. Ce qui fait que certains films italiens sont tournés malgré tout dans des décors qui ont été construits pour des films américains, que certains techniciens d'un pays travaillent pour d'autres. Ce qui fait que l'influence d'Hollywood sur un certain nombre de péplums italiens est tout de même sensible.
Oui, on pourrait plutôt parler d'une sorte de dialogue, d'émulation finalement. Mmh. Mmh. On sait bien effectivement, par exemple, que Cabiria a beaucoup inspiré Griffith. Hein,
Il en fait venir à l'époque, et il en achète une copie, il a fait venir à Hollywood.
Oui, et de la même façon que c'est Riccardo Freda dans l'après-guerre en Italie est extrêmement impressionné par les productions de 2000, que lui-même relance un Spartacus qui aussi va avoir un intérêt finalement pour l'histoire du renouveau du péplum aux États-Unis dans le second après-guerre. Alors, le péplum, on a commencé, bien entendu, j'espère, à bien fouiller le genre, donner toute une série de noms, de titres de films. Est-ce que on pourrait quand même classer ces films en différents sous-genres, peut-être mettre à part le péplum historique, du péplum mythologique, du péplum biblique? Au fond, même si le thème reste l'Antiquité, son histoire, sa littérature, dans l'Antiquité, des réalisateurs vont aller piocher finalement un petit peu des choses très, très différentes. Et alors en particulier, il y a un thème fondamental qui va servir de réservoir assez extraordinaire de script, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je vous propose tout de suite d'écouter la façon dont le cri de défense que le centurion Marcellus prononce devant Caligula dans les dernières minutes d'un péplum de 1953, la tunique, qui précisément a vu le premier usage du cinémascope. Et je vous propose donc tout de suite d'écouter ce petit extrait.
Si l'Empire souhaite la paix et la fraternité entre tous les hommes, alors mon roi sera aux côtés de Rome et de son empereur. Mais si l'Empire et si l'empereur persévèrent dans la voie de l'agression et de l'oppression qui ont apporté souffrance, terreur et désespoir au monde, s'il ne reste rien à espérer aux hommes que famine et chaîne, alors mon roi viendra pour redresser ses torts. Et pas demain, César. Il se peut que toi-même, César, tu n'aies pas le bonheur de voir s'établir en ce monde son royaume, mais un jour il viendra.
Alors, le bref extrait montre évidemment toute la fougue, la vergue de Burton et du scénario qu'on lui fait, enfin du dialogue qu'on lui fait prononcer. Alors, cet usage des thématiques religieuses, surtout empruntées, alors soit à la période des persécutions, soit au grand récit fondateur des premiers temps du christianisme. Est-ce que, Dominique, vous pensez que c'est simplement une facilité des réalisateurs qui vont finalement chercher là à la fois du grandiose, du spectaculaire, presque des intrigues toutes faites? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un sous-texte ou une volonté différente en mettant en scène dans les États-Unis des années 50 ces grands récits de chrétiens persécutés et finalement triomphants, soit matériellement, soit spirituellement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a derrière tout cela d'autres enjeux?
Je pense, oui, qu'on peut interpréter de cette manière. Il faut tout de même avoir toujours en tête, parce que c'est très différent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que l'Amérique protestante est tout de même extraordinairement imprégnée d'un rapport familier avec l'univers biblique, et que de même l'Italie, pays catholique, est lui aussi très nourri de la référence religieuse et de la lecture par image interposée parfois de cet univers. Donc c'est un univers familier, il y a une forme de facilité à choisir un univers que les spectateurs connaissent. Mais bien entendu, la lecture idéologique est souvent facile aussi à faire dans ces grands péplums. Et l'Amérique, il y a une interview assez rigolote de Peter Ustinov sur le rapport des Américains au péplum et à la Rome antique et aux premiers chrétiens. Elle permet de mettre en scène, par exemple, dans le martyr des chrétiens, dans les souffrances imposées aux chrétiens, une certaine vision qui transpose toutes les persécutions qui peuvent être possibles, aussi bien le maccartisme, la lutte contre le communisme, etc. C'est-à-dire qu'une défense qui passe par le thème religieux. Et on l'a fait très souvent pour ces grands péplums bibliques, et oui, c'est compréhensible.
Oui, Laurent Givlet.
En fait, il y a deux choses quand on adapte les sujets religieux. Quand on adapte les sujets pris dans l'Ancien Testament, en fait, on se rapproche beaucoup plus de péplum mythologique, parce qu'au fond, on met en scène le surnaturel. Bon. Quand on touche à la vie de Jésus, des premiers chrétiens, du martyr, c'est souvent le point de vue adopté est souvent un point de vue politique, en fait. C'est-à-dire le rapport du pouvoir aux chrétiens, la liberté de pratique religieuse, la difficulté à vivre sa foi, etc. Et c'est souvent dans cette lecture-là. Après, c'est une nécessité de scénario, il faut construire un conflit. Mais c'est un autre point de vue. Donc, en fait, bien sûr qu'on peut prendre dans la Bible des sujets, mais montrer Moïse qui traverse la mer Rouge et la mer qui s'ouvre, là, on est dans le spectaculaire tout à fait digne de la mythologie païenne. En revanche, quand on touche au Nouveau Testament, en gros, là, on touche à des questions de pouvoir davantage.
Oui, alors à côté de cela, justement, donc de tous ces thèmes empruntés, alors soit une littérature inspirée des textes chrétiens, soit directement puisée au texte chrétien lui-même, il y a aussi des péplums qui prétendent faire œuvre d'histoire, ou du moins immerger le spectateur dans une reconstitution de l'Antiquité, voire proposer des points de vue particuliers sur l'histoire antique. Peut-on dire que le péplum, finalement, c'est aussi un moyen de faire, d'une certaine façon, de l'histoire de l'Antiquité? Ou est-ce que, au contraire, le péplum, au fond, c'est un peu une antiquité d'opérette, une antiquité fantaisiste? Dominique, vous qui avez longtemps enseigné les lettres classiques, est-ce que vous vous êtes, par exemple, servi du péplum pour illustrer des épisodes, ou au contraire, des atmosphères de l'Antiquité?
Oui, je me suis servi du péplum. Parce que, certes, c'est une antiquité un peu réduite par moment, puisque, par exemple, la Grèce occupe quand même nettement moins de place. Elle est essentiellement mythologique, que Rome est essentiellement la Rome impériale ou la Rome de la fin de la République et du début de l'Empire, et puis de son affrontement avec les barbares, que l'Égypte est elle-même réduite à quelques périodes. Donc, pour ce qui concerne l'antiquité gréco-romaine qui m'intéressait, on peut tout à fait se servir des péplums parce qu'il y a un réel souci chez un certain nombre de réalisateurs d'authenticité, de recherche, de reconstitution d'un certain nombre d'éléments, plus qu'on ne l'a dit. Par exemple, lorsque Hawks tourne La Terre des Pharaons, il prend conseil des archéologues, il met en scène la découverte de la barque solaire. Et bien sûr, il faut tenir compte de l'état des connaissances archéologiques et historiques qui étaient celles à l'époque de la réalisation et qui ont évolué, qui ne sont plus toujours exactes ou vérifiées aujourd'hui. Mais on peut, par exemple, dans le souci de montrer des soldats, de montrer la Via Appia, de montrer un certain nombre de monuments, on peut même se servir de reconstitution du forum en montrant qu'il y a des monuments qui ne sont pas chronologiquement justes, mais ça ne fait rien. On peut néanmoins montrer des choses. Et dans la série Rome, par exemple, dont on parlera peut-être, le côté extrêmement, populaire, grouillant, multilinguiste et multireligieux de Rome est tout de même assez intéressant à montrer.
Oui, je crois qu'il faut prendre au sérieux quand même le cinéma. C'est-à-dire que c'est une industrie et on ne donne pas de l'argent et dans des sommes colossales comme ça sur rien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail. Des décorateurs, il faut quand même penser, avant de le tourner le film, on construit des décors. Les décors, ils sont construits à partir de repérages. Y a même chose pour les costumes, même chose pour le mobilier, même chose pour les bijoux. Donc on visite les musées, on s'informe. Donc il y a tout un travail antécédent important. D'un lien profond entre tous ces gens qui travaillent un peu dans l'ombre, mais qui sont essentiels pour le péplum, avant d'en arriver effectivement au tournage, et puis alors à l'effet plus ou moins kitsch, on va dire, mais quand même, c'est-à-dire que quand bien même c'est kitsch, ça vient pas de nulle part. Alors ça, il y a aussi le filtre du 19e siècle, de la rêverie orientaliste, parce qu'on peut adapter Salammbô aussi, c'est-à-dire le roman de Flaubert qui lui-même adapte. Bon, donc là, évidemment, on joue sur l'orientalisme, mais je crois qu'il faut vraiment porter attention à ça. C'est un élément important de la splendeur, du spectaculaire et du divertissement du péplum.
Merci Laurent. Alors nous avions déjà évoqué hein, au cours de cette émission qui malheureusement est plus près de sa fin que de son début, plusieurs fois donc des séries importantes, alors Claude, Empereur de Rome, Massada, Rome bien entendu, on pourrait citer aussi Spartacus, malgré ses excès un peu de violence et d'autres représentations faciles. Est-ce que justement, alors comment expliquer finalement qu'après une éclipse, en tout cas, une perte de qualité, on peut dire, dans les années 60-70, enfin, deuxième moitié des années 60, partie des années 70, si l'on accepte quelques chefs-d'œuvre de Roberto Rossellini ou de Pasolini, l'éclipse, disons, du péplum en tant que genre populaire. Comment expliquer finalement que depuis une vingtaine d'années, le genre, alors sans forcément avoir l'impact des blockbusters de Disney ou de Marvel, reprend à la fois des couleurs sur le plan de la production cinématographique, mais aussi sur le plan de la série. Dominique, à votre avis, qu'est-ce qui fait que notre période, la dernière génération finalement qui est la nôtre, apprécie le péplum alors que pendant, disons, une petite trentaine d'années, au fond, c'était le western ou le film policier qui dominait.
Oui, alors je ne sais pas très bien en fait pourquoi le péplum a retrouvé des couleurs. Je sais que une des sources de Ridley Scott, ça a été justement le Policé Uerso, le tableau de Jérôme, donc la peinture pompier. En voyant ce tableau, il a eu envie de tourner un péplum. Est-ce que nous avons renoué avec ce goût? Je ne sais pas. Il y a eu une grande exposition Jérôme en même temps, lequel nourrit l'autre, je ne sais pas trop. Il me semble que à la fois les procédés techniques du cinéma permettent de faire ces grandes fresques, à nouveau de multiplier les figurants de manière numérique, d'utiliser des effets spéciaux extraordinaires, etc. De mettre en scène des personnages qui sont des héros, mais des héros cette fois-ci individuels, qui vont dans une débauche parfois exceptionnelle et pas toujours appréciable de violence, de sang, d'ardeur, pouvoir coller avec un certain nombre d'autres personnages de films plus récents qui ne sont pas des péplums, mais qui nourrissent chez le spectateur ce goût pour des espèces de super-héros.
Laurent,
Il y a un besoin de toute façon de souffle épique, et que la science-fiction l'a assuré pendant pas mal de temps, en fait pendant toute l'éclipse du péplum. Et là, elle commence à s'essouffler. Donc ce qui revient, c'est aussi ça, c'est aussi le péplum, l'antiquité. Moi je pense que la télévision et les séries ont une ambition pédagogique. Rome, je crois que c'était assez clair. Arte a financé, avait fait une série qui prolongeait l'Odyssée en imaginant le retour d'Ulysse à Ithaque. Ça devait s'appeler Ithaque, je crois. Imaginons une intrigue politique, donc quelque chose d'assez intéressant dans le projet. Donc là, il y a une vocation un peu pédagogique et de retour du spectaculaire. Alors avec des films, avec des héros uniques, ou alors en explorant un peu ce qui est laissé pour compte. C'est-à-dire Troie, par exemple. Bon, la guerre de Troie, Ulysse a bien plus été été illustré que 3, 300 avec des combats aux Thermopyles, enfin des choses assez difficiles à représenter, ou Alexandre, héros grec. Voilà, on revient, on essaye de combler des manques un peu historiques.
Mais je ne sais pas si c'est une véritable renaissance du péplum, parce que ces derniers péplums, à part Gladiator, n'ont pas connu un succès considérable, voire on fait un flop pour certains d'entre eux. Ouais. Donc je ne sais pas si cela aura une suite, si nous aurons un troisième âge d'or ou un second âge d'or si on néglige
alors
le premier.
Peut-être faudra aller voir du côté des jeux vidéo, par exemple.
Voilà, mais c'est d'ailleurs la technique et l'esthétique du jeu vidéo.
Absolument.
Alors voilà, nous avons malheureusement presque terminé cette émission. Pour toutes celles et ceux qui auraient vraiment, alors à la fois découvert ou redécouvert le péplum et qui souhaiteraient en savoir plus, sur le site de l'émission, une petite bibliographie, une petite filmographie seront mises bien entendu à disposition des auditeurs. Mais juste avant de nous quitter, néanmoins j'aimerais poser la question habituelle à nos invités. Au fond, si vous aviez un ou deux péplums qui vous tiennent vraiment à cœur, quel film choisiriez-vous, Dominique? Je vous vois déjà prête à bondir.
Non, alors je choisirais, pour respecter notre séparation entre Hollywood et Cinecittà, et puisque je crois que le signe de la croix de Cécile B. 2000 est déjà pris, je choisirais Spartacus pour le plaisir de revoir Charles Laughton en Gracchus, dans ce film-là, en politicien roublard, mais anti-dictature, etc. Pour voir Peter Ustinov, non pas en Néron, comme dans Covadis, mais en laniste, dans son école de gladiature. Et puis, pour à la fois le caractère composite et néanmoins fascinant d'un certain nombre de scènes de ce film. Et puis, un Italien. Et je choisirais, je crois, Hercule à la conquête de l'Atlantide, parce que c'est un film dans lequel Hercule est nonchalant, pantouflard, gourmand, enfin, et en décalage avec l'image que l'on a souvent, parfois à tort, mais d'Hercule, et qu'il est embarqué donc dans une expédition dans un monde inconnu. Il va se retrouver chez Antinéa et trouver face à lui toute une armée, une garde noire qui est constituée de robots ou d'êtres robotisés sans yeux et obéissant aux doigts et à l'œil, et que ça se termine dans une catastrophe qui n'est pas ni le tremblement de terre ni l'éruption volcanique à laquelle on est souvent habitué, mais un cataclysme dans un nuage en forme de champignon qui est assez magnifique.
Laurent, vos péplums coup de cœur?
Alors moi, il y aura le Cléopâtre de Mankiewicz, parce que c'est des souvenirs très émus de voir Elizabeth Taylor sortir d'un tapis. Enfin, c'est magnifique, quoi. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Barabbas de Fleischer, qui tourne. Parce que c'est une histoire assez passionnante. C'est au moment du procès par Pilate du Christ. Et on voit jamais le Christ, il est à contre-jour. Enfin, et on va suivre en fait celui qui est laissé pour compte. Donc on invente une doublure à l'histoire, et en fait il va faire un parcours jusqu'à Rome, jusqu'à être finir dans une arène aux côtés de Saint-Pierre, mais il tourne le jour d'une éclipse, véritable éclipse, la crucifixion du Christ, ça c'est très très beau. Et puis moi j'ai un souvenir très ému de film que j'aimerais revoir, de Kakoyanis, Iphigénie, qui avait mis en scène en Grèce des tragédies grecques en noir et blanc dans un décor absolument splendide, et ça un jour peut-être on pourra les revoir, mais c'est très très beau. Ouais.
Eh bien merci à nos deux invités d'avoir véritablement éclairci, je crois, ce genre cinématographique à la croisée entre films de genre, films d'auteur que n'ont peut-être pas forcément suffisamment abordé, mais tout ne pouvait pas être dit en une heure, croisée donc aussi de différents espaces culturels, de différents temps, de différents moyens. Là aussi nous aurions pu insister aussi sur la question des moyens mis à la disposition du péplum, les quantités colossales de décors, de personnages, de figurants. Bien, mais en tout cas, j'espère avoir donné aux auditeurs, aux auditrices, le goût finalement de voir ou de revoir ces films, que la critique française, alors avant justement les MacMahoniens et avant les années 60, considérait quand même avec beaucoup de mépris, même pas un cinéma populaire, mais un cinéma plutôt de seconde zone, kitschissime et véritablement qui piquait les yeux, d'avoir montré à quel point une analyse un peu précise, fine et puis généreuse de ces films permet de leur redonner toute leur valeur comme à la fois divertissement et film d'histoire. Je clôt donc cette émission en remerciant une nouvelle fois mes deux invités et vous invite à nous retrouver en janvier pour la quatrième émission de Un tour d'histoire.